Hello and welcome to Viewpoints. My name is Boris Chassaing. I'll be with you for the next half hour. On today's show, high risk, high reward. A team of scientists drilled the ice core from Mount Logan's summit plateau. They hope to get a peek of the continent's past. A documentary produced by Megan Dooling in Revelstoke, BC.
Able to drill basically no matter what the weather was. And I believe it was 11 days of drilling, with the drill being on about 14 hours a day. And it's a really long time to stay up there at that kind of altitude. I've never done such an experiment on myself, staying, you know, around 18,000 feet for almost 2 weeks.
And we keep an eye on the mountains as we travel to northern British Columbia to visit the Mount Layton Hot Springs Resort.
And walking through that location it's unlike any other location because it's so pristine. From the day it was shut down, it's remained private property, closed off to vandals and stuff. So walking around there, it's unbelievable. You can see the facility that was in operation and enjoyed by thousands of people for years. And then you can see the half of the resort that was under production but never actually finished. So it was wild walking through there and getting to see that firsthand.
Welcome to Viewpoints. A team of scientists led by the director of the Canadian Ice Core Lab spent 26 days in May drilling 327 meters of ice core from Mount Logan's summit plateau. Mount Logan is located in the Yukon Territories. It's the highest mountain of Canada. It looms in the St. Elias Range at some 6,000 meters, and it's the second largest in North America after Mount Denali in nearby Alaska in the same mountain range. The team made it up to the summit plateau in 10 days at 5,200 meters. Most of them lost about 10% of their body weight. In the end, three of them had to be flown off Mount Logan. Mount Logan is the largest non-polar ice field in the world, and drilling into the ancient ice should give scientists a sense of what's been going on in the continent's past. The team of scientists set up the 900-pound drill, flown in three separate helicopter trips, and set up camp on the plateau. The team helper was a Revelstoke citizen, a Revelstoke, BC citizen, Greg Hill, accepted the job with philosophy, saying, "Strange invitations to travel might be dance lessons from God." Our journalist Megan Dooling caught up with Greg Hill and with one of the team's chief scientists, Dr. Allison Crisitello, who leads the Canadian Ice Core Lab team. They both recall this fantastic experience on Mount Logan. This documentary is quite extensive and complemented online with many pictures taken during the expedition to Mount Logan in the Yukon Territory. Please go to our Canada-info page to see them. Here's the Viewpoints version of this documentary. We'll be back in 20 minutes.
There's a really cheesy quote that I've heard at some point that strange suggestions of travel might be dance lessons from God. Super cheesy, but the truth is you kind of got to be open to things. Hey, my name is Greg Hill. I'm a Revelstoke local, if somebody local is after 20 years. Middle of April, I got a phone call from a film crew that was heading up to Mount Logan, and they invited me along to be their Sherpa, their camp helper, the guy that just does everything. And I'd worked with this Arcade Motion crew before, so they were keen on having me along.
Greg was there along with the visual and sound person, you know, to help carry their huge loads. They had normal loads for climbing Logan plus a crazy amount of, you know, their film equipment and stuff. So it took, he's the very best person for such a job. My name is Allison Crisitello, and I'm the director of the Canadian Ice Core Lab at University of Alberta. And I'm a high-altitude mountaineer.
What we were doing is I was going to be part of a film crew that would film Ali Crisitello, who's this famous glaciologist who was heading up there with a crew of about a total of seven of them to get up onto the top summit plateau of Mount Logan at around 5,200 meters. And while they're up there, they're going to drill an ice core on the kind of the highest place in Canada on the largest non-polar ice cap in the world.
Mount Logan is the highest mountain in Canada at 5,959 meters. It looms in Kluane country in the Yukon, rugged country filled with big mountains, windy lakes, glaciers, grizzly bears, and mountain goats. Logan is the second highest peak in North America after nearby Mount Denali in Alaska. The two mountains are in the St. Elias Range.
I think for most of my life so far, I kind of ping-ponged between my two loves, you know, cryosphere science and cryosphere exploring. I mean, even in grad school, I think, you know, I'd work in Antarctica and then be in an ice core lab for a month and then write a bunch of papers and then take 4 months off and go to the Himalayas. And it was like everything was not integrated. I felt like I was always picking and choosing and just ping-ponging between stuff. And it wasn't really until I got this position here at U of A and, you know, have been started my own lab and leading big projects that I can steer, that I've been able to kind of integrate it all. And it feels really cool.
This was Allie's third time climbing Mount Logan, and the first time she planned to stay on the summit plateau to drill ice samples. The film crew Greg was there to support. They were making a film for National Geographic about Allie. National Geographic supported the trip as part of its Perpetual Planet initiative, which is supported by Rolex. That's according to an email from Allie's contact with National Geographic.
There were sort of basically two phases of this project. The first phase being climbing Logan, you know, from base camp up to the summit plateau in order for the whole team to be able to work safely at the altitudes that the core was being drilled at.
Kluane National Park is the largest mountains in Canada. When we were flying in to the bottom of Mount Logan, it was a 45-minute flight through endless mountains. It's just this sea of incredible peaks and hanging glaciers, and it's mind-blowing how deep and how vast all the mountains are there.
And Logan, because of where it sits, it's got this enormous summit plateau. It's 20 kilometers long. It's above 17,000 feet, and it's, you know, the bedrock below the summit plateau is it's deep, and it's sort of a bowl, so the ice is kind of stagnant, and it has been allowed to accumulate over very long periods of time.
In the end, it took them 10 days to slowly make their way up the side of Mount Logan to the summit plateau. Some on the crew adjusted better than others.
The second night, we woke up in the morning, we're all ready to go, and all of a sudden the mechanic, the guy who's in charge of the drill, the essential guy that if anything goes wrong, he's the guy to repair the drill. He spent the night vomiting and diarrhea at like minus 15 or 20, and essentially right away there was discussion whether the whole trip was already canceled. Anyhow, he eventually overcame that. He spent quite a lot of time going slower than the rest of us and overcame it. But that sickness actually went through three of the seven scientists, and kind of they all get wrecked and throwing up and not feeling good. So this took all the unknowns of a regular mountain climb and then added in us having to stay at 17,000 feet on this high elevation, high plateau, and just to live there for 2 weeks in itself is harsh on the body. I mean, I personally lost 15 pounds. Most of us lost about 10% of our body weight.
And then, of course, the second phase being having all of the drill and all of the scientific equipment flown up there and drilling the thing and getting the ice flown off. And I did have a big dome tent flown up over there, so we were able to drill basically no matter what the weather was. And I believe it was 11 days of drilling, with the drill being on about 14 hours a day, which is a lot. And it's a really long time to stay up there at that kind of altitude. I've never done such an experiment on myself, staying, you know, around 18,000 feet for almost 2 weeks.
At that point, another person in their crew ended up getting HAPE, high altitude pulmonary edema, which is basically his body wasn't adjusting and he wasn't absorbing enough oxygen, and he got quite close to death, really. He was coughing all night and for many nights, and we brought him some some steroids to use, and then eventually I ended up longlining at like 17,000 feet. This helicopter came in with a 100-foot line off the bottom, and I ended up hooking him to it and flying him away.
In the end, Greg hooked up two more scientists to long lines attached to hovering helicopters because they were suffering from the altitude. He ended up joining the drill team.
I didn't have that much to do once we were up there filming, and I was like, well, I might as well join them and make it work as efficiently as possible. But the drill itself is kind of, I've been trying to figure out how to explain it. It's almost say like it's like almost a seesaw that what you're able to do is you're able to balance it horizontally and pull the ice core out, and then you seesaw it vertically, and then you're able to, the drill is able to go down into this hole, and you slowly drill out a meter each time. Like the max you ever get is a meter, maybe a meter 20. I think at one point they got a meter 50 of ice core.
So there's a center, the center stick of the ice core, which is the very most pristine part of the core. Not only have we not touched it, like it hasn't even seen the air in however many years old it is.
After they set up the tents, the teams used a radar to find the best place to drill the ice. When Greg mentioned sonar, what they were using was a radar.
And we were kind of looking for around 250 meters down to bedrock. And they ended up, the man in charge of the sonar, who I flew out a couple days later, he found a spot that was between 240 and 270 meters is what he said. So we started drilling there, and that was our goal. It's kind of like a marathon. We thought that was the end, you know, 250, 260. And, you know, we're doing about 30 meters a day. So anything past that is going to be an extra day or what have you. So as we're drilling, we kind of hit his points of 250. And then we had all sorts of bets going on. Then we hit 260, then we hit 270, and then it's the next day, and we hit 280, 290, 300. You know, all of a sudden we're 50 meters deeper than he thought, and getting frustrated because, you know, it's going to happen. We've already got a few people that are sick. By now I've flown off three people, you know, that are just, their bodies aren't doing well at that elevation. You know, here we are going deeper and deeper and getting quite frustrated because we assumed we were going to be hitting bedrock. And it got to the point where, yeah, we got 327 meters in, and we'd used all our bags to wrap all the ice cores up. We'd use all our we'd use everything because we were well beyond what we thought we were going to drill for.
The latitude of Logan means that the altitude is felt very heavily. So I think where our ice coring site was feels more like between 20 and 21,000 feet to the body. And that's not an altitude that you sort of acclimatize or recover at. So for those 11 days of really, really long drill hours, you know, I don't think anyone felt super good. None of us were sleeping that well, and it's kind of hard to eat and all these things. And it was just really incredible to watch basically this amazing people suffer all for a unified cause.
But yeah, the reward is that ice core, is that now that they've got, that we pulled out 327 meters of ice, and it was all really nice ice cores that were going to be really easy for them to study for the next 10 or 15 years. The more I looked into it, the more I realized what a wild trip I was on. It wasn't just like a run-of-the-mill ice coring mission. It was as high risky and impressive a feat as anything I've ever seen, really.
A core from Mount Logan that's sitting right on the Gulf of Alaska in the middle of the North Pacific has the potential power of telling us something about long-term climate variability in the North Pacific that, say, an Antarctic or a high Arctic ice core couldn't, just because of its location on Earth. And in terms of, you know, tens of thousands of years of climate history, it's very, very unique outside of the polar regions. There aren't very many places that over these really long timescales don't see any melt, even in the height of summer. And also just in a more kind of geographical sense, like have all of those, the right conditions for these long-term records to be laid down in the snow and never melt, basically.
327 meters of ice samples from Mount Logan's summit plateau were flown to waiting trucks and driven to the Canadian Ice Core Lab at the University of Alberta in Edmonton, which has ice core samples from all over the world.
The archive here, so we, like the minus 40 kind of ice library, has 1.5 kilometers of ice in it right now, not including what just came here from Logan. Most of it is from the Canadian High Arctic, but there are cores and samples from all over the world.
Meanwhile, Greg and Allie hopped on a bush plane flown by a young Kiwi named Andy, who's fulfilling his dreams of flying small planes in Yukon's big mountains. He flew them to the Kluane Lake Research Station.
I mean, it was such a nice feeling when we finally came out to just be smelling the trees and seeing nature, because 26 days of white, bleak mountain stuff is great, but coming back is way better.
It means this. I can't even put into words what this project means to me, but also just to be on this end of it now, having actually pulled it off, and to have the ice. It's about 10 meters from where I'm sitting right now, safely back here. I think most longer term climate records, you know, they give us a backward looking perspective so that we can look forward. There's also specific aspects of the Logan Ice Core that I think will be very important, sort of counterintuitively, in some places on the planet. Places at higher elevation are experiencing more rapid increases in temperature, which is really important in a lot of regions. You know, some of the other regions where this is happening are, there are billions of people who depend on water coming from these areas, not Logan, but some of these other areas experiencing the same phenomenon. And so where Logan sits is the largest non-polar ice field on Earth. It's just a mind-blowing amount of snow and ice locked up. And so there's a lot of concern about not just the elevation-dependent warming at higher altitudes, but warming in general across the St. Elias and the Icefield ranges. And then, you know, more specifically, some of the certain things that we'll be looking at in the core are, for example, reconstructing wildfire history over time.
Involved in this is really interesting. Like, one, because I hadn't been on any expeditions, and I'm trying to have more value to my expeditions. This was exactly what I was looking for. But also, as an environmentalist, who often you always hear them talking about these climate records and ice cores, it kind of gave me this view into the other side of it, where they're getting these ice cores. And you know, as much as this trip is going to be for climate science, like, you know, we use so much fossil fuels to get to there. Like, there's so many eggs cracked to make the omelet or whatever. But it was. Still, ideally, all the information and everything we get from that overshadows any carbon usage and helps just kind of figure out the future and how to make the world a better place. But actually, to be on that one side where, like, oh, I'm part of it, getting this incredible ice core. And yeah, it was like Allie and I clicked and we had a blast up there. And, you know, quite honestly, I'm looking forward to whatever next expedition she invites me on.
The third phase of this expedition starts on July 11th, when Allie and many of her colleagues will start to meticulously cut up the ice samples to study them.
That center pristine stick will go, essentially it gets directly melted and put into a mass spectrometer, an ICP-MS, and that gives us a huge suite of elements, things like heavy metals. Another stick will give us stable oxygen isotopes. Another stick will give us major ions, so you know, sodium and chloride and things that come from the ocean that get transported and then precipitated in snow up on the top of Mount Logan and tell us about what's been happening off the coast in the past. We will take a st- stick, and I mentioned quickly, that will go specifically toward this wildfire reconstruction. There's all sorts of sort of newer techniques for looking at not only, you know, wildfire frequency in the past, but what exactly was burning, so we can just kind of sort out different vegetation change. So there'll be a stick that goes to a colleague's lab for that. Yeah, both myself and Kira Holland, my PhD student who's working on this, as well as many, many colleagues. It takes a lot of people to do something like this.
I'm Megan Dooling.
What a great story produced by Megan Dooling in Revelstoke, BC. And we travel up north to the Mount Layton Hot Springs Resort. Dustin Porter, a BC filmmaker, tracked down the history of the resort. The Mount Layton Hot Springs Resort was recently featured in his Abandoned Places video series. The resort sits along the eastern shore of Lake Else Lake, just south of Terrace, British Columbia. That's in the north of the province, roughly 800 kilometers south of the Yukon border. Part of the resort, the hotel and restaurant, are still in operation, but the hot springs and theme park were closed many years ago. They remain untouched since their closure in 2010. And that's too bad, because the hot springs are said to be the hottest in Canada, reaching a temperature of 30 degrees Celsius. They are the second largest hot springs in North America after Glenwood Springs in Colorado. The owners of the Hot Springs Resort still own the 1,000-acre property. Marlene and Bert Orleans purchased it in 1985 with the intent to expand the hotel and restaurant and natural hot springs to include a water park feature and also a conference center. However, new regulations regarding indoor mineral pools came into effect and killed the project. Pamela Hassan is in Smithers, BC. She spoke with filmmaker Dustin Porter, who was authorized by the owners to film the closed section of the resort during the whole day, a resort the owners still hope to revive. They're just looking for the right person with the right project.
Mount Layton Hot Springs Resort is a spot that's been on my list for years. Like, that's a big location that you can see right from the highway, so it's been on the recommendeds list from viewers for, I mean, since the beginning. It was just getting all the way north to pursue that story. Being from Williams Lake, that's a long drive up to Terrace. And last year I was heading north, so that was my first story of the north. And it's really difficult to find the owners of that place, so I just went right there, told them who I am, what I'm doing, was able to get contact for the owners. And I think the fact that I was pursuing a professional product instead of wanting to just explore, they gave me access to their property. They gave me a full tour of the location and then gave me free rein to film it for the whole day. And walking through that location it's unlike any other location because it's so pristine. From the day it was shut down, it's remained private property, closed off to vandals and stuff. So walking around there, it's unbelievable. You can see the facility that was in operation and enjoyed by thousands of people for years. And then you can see the half of the resort that was under production but never actually finished. So it was wild walking through there and getting to see that firsthand.
I guess, what are you feeling when you're walking through there? What, you know, what are you feeling and what are you thinking? Or do you just look at it from a videographer's point of view and can't get out of that perspective?
Yeah, that's a great question. Oftentimes when I'm at a location, I am looking at it as a filmmaker. And that came from years of training on cruise ships, because when I was filming short excursions, my whole first contract, I had a hard time focusing on the job. I focused on how much fun I was having. Mm-hmm. Now I'm very focused on the job. So I don't really appreciate the location until I'm back editing, especially if I have interviews. That's when I really appreciate and learn about the location. But walking around it, this one is unique because it's not vandalized. And I think that's just a product of being in the north. There isn't the dense populations of people, like I hate to say it, but in a city looking for things to do. Like in the north, there's so much to do. People aren't really going and breaking windows and spray painting things. Mm-hmm. So it's nice to see that as a change, because it's pretty rare that you find something that has been, quotations, abandoned. Within a couple of years, usually it's been destroyed by vandals.
Yeah.
This is one of the most unique places in all of Canada as far as hot springs go, because it has major untapped potential there. They're sitting on 900 acres that backs up to Lake Else Lake. So you have unlimited fresh water, and combine that with the hot springs, we should have all greenhouses on that property. It could be year-round produce, and it could feed all of the Northwest. That's what I think is unique about that place, and it's grossly underutilized. Kudos to the owners that have it right now. They will not sell it to somebody that doesn't have the right intentions for the property. They've had huge money offers from bison farms trying to buy that property just to put bison on it, and they've shot it down. They're waiting for somebody to come with a business plan for a wellness retreat, or the example I gave with the greenhouses.
Yeah.
So hopefully somebody will come in with money, and you will need money to start that, but it would be a huge business.
Yeah. So what's your next abandoned destination, or are you allowed to give away or tease anything about it?
Well, I'm Alaska bound right now. I'm currently in Stewart, BC. So that is on the border of Hyder, Alaska.
Yeah.
That's not the Alaska I'm looking for. I'm going up through Anchorage and Whittier. I can't give away too much this trip, because it's finally the first trip where I'm redoing a route. So I have a whole lot of locations kind of in the works right now. But the next video that will be coming out, I do produce a story on Hyder, Alaska, really neat little town isolated within Canada. And then I take a motorbike up to the old Grand Duke mine. I'd like to just have a message to all of the people that get out there and adventure these locations. On the channel, as the channel gets bigger, more people are going out and enjoying these adventures that I'm putting out there. And at the end of every video, I have a slogan: take nothing but pictures, leave nothing but footprints. It's something that's, it sounds kind of silly, but I've always lived by that, because if everyone that visits these places takes something away, it doesn't take long until there's nothing left. And those artifacts that are there, whether they're worth money or not, that's what preserves the history of the location. So I always like to make that apparent.
Dustin, thanks so much for taking the time. I'm sure you're busy, and I'm glad that I got you in a place where you have good reception as well, because the call was nice and clear. But I really appreciate your time.
Pamela Hassan's full interview with Dustin Porter is available on our website at canada-info.ca. And that's it for us at Viewpoints. Thanks to our journalists, Megan Dooling, Pamela Hassan, and their guests, National Coordinator Maureen McEwen, to the artists who grace us with their music. You know it would not be the same without you. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada. I'm Boris Chassang, your host and producer. Nice to have you with us. See you next week. Thank you.
398-4616. Get in the mix, stir the batter. Constant chatter on CKUT 90.3 FM. Did I miss something?
Je m'appelle Alice Wu et voici quelques des gros titres récents. Le samedi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de la variole simienne une urgence de santé publique de portée internationale. Celle-ci est le plus haut niveau d'alerte possible et censée encourager les nations à investir plus en traitements et vaccins. Il y a environ 700 cas de variole simienne au Canada et presque un demi sont au Québec. Et le gouvernement du Québec a autorisé le vaccin de Moderna, appelé Spikevax, pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Les parents peuvent maintenant programmer un rendez-vous en utilisant le portail de santé numérique Clic Santé. Le gouvernement recommande que les enfants reçoivent 2 doses et attendent au moins 8 semaines entre eux. Certains enfants immunodéprimés peuvent recevoir une 3e dose. Et cette semaine, le pape François visite le Canada et il visite la ville de Québec en particulier du 27 au 29 juillet. Selon l'Église catholique, le but de la visite est de promouvoir la guérison parmi les communautés Premières Nations, Métis et Inuits, dont les enfants ont été des objets d'abus dans les pensionnats gérés par l'Église. Et Montréal et Place des Arts sont devenus la 20e et 21e gare de métro accessibles dans la ville. Cela signifie qu'elles ont maintenant des entrées qui permettent l'accès chaises roulantes ainsi que des ascenseurs.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette 24e édition, vous avez envie de prendre la mer? Eh bien, la garde côtière canadienne pourrait vous offrir une formation de 4 ans, toute dépense payée ou presque.
Lorsqu'il est gradué, on va demander à chaque région combien d'officiers qu'ils veulent. On va placer nos gradués en général selon leur premier choix.
Des réfugiés ukrainiens pourraient sous peu prendre racine dans le petit hameau d'une centaine d'habitants de Tête-à-la-Baleine au Québec. En Alberta, les Summer Days de Lac-Labiche reprennent du service après une pause de 2 ans. 2 équipes de baseball célèbrent la francophonie lors d'un match très serré.
Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand quelqu'un est au bâton puis on lui chante des chansons.
Et le Nouveau-Brunswick serait en panne de chauffeurs d'autobus scolaires francophones.
On est en situation anglo-dominante. Le bassin de personnes qui sont confortables à parler le français ou à s'exprimer en français oral et écrit est moindre. La compétition pour ces personnes-là est plus grande parce qu'il y a plusieurs employeurs qui recherchent des personnes qui parlent le français.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Si vous aimez l'eau et partir en mer pour des périodes prolongées, eh bien la garde côtière pourrait bien avoir de quoi vous intéresser. La garde côtière canadienne recrute des candidats pour son programme de génie maritime et vous offre presque toutes les dépenses payées imaginées. La première ronde était offerte jusqu'au 16 juillet. Ne vous en faites pas, il y en aura d'autres. Encore mieux, ça vous donne le temps d'y réfléchir et de vous y préparer. Ce programme universitaire forme des ingénieurs mécaniques qui pourront œuvrer sur les navires de la garde côtière partout au Canada. La flotte de la garde côtière qui est composée, nous apprend-on, de 42 navires et de 2 aéroglisseurs. Ici, notre journaliste en Basse-Côte-Nord, Pénélope Clermont, a rencontré David Gerbassi, directeur des études au Collège de la garde côtière canadienne de Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Yannick Poirier, surintendant du Centre des opérations régionales, basé à Montréal, lesquels sont à la recherche de candidats qui ont un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire. On l'écoute.
On cherche des candidats qui se trouvent à bien aimer la vie en mer, qui sont passionnés, pas nécessairement qui ont l'expérience dans la garde côtière ou même d'une vie d'un marin, parce qu'ils vont tous apprendre ici au collège lorsqu'ils arrivent. Alors vraiment, c'est juste quelqu'un qui est passionné pour l'aventure.
Alors, comme M. Gerbassi me l'expliquait, le seul prérequis pour intégrer le collège est un diplôme de 5e secondaire. Sinon, on se doit de traverser un processus d'entrevue permettant à la direction de sonder l'intérêt des candidats, en plus d'évaluer leur capacité de leadership et de travailler en équipe, selon lui. La formation en génie maritime dure 4 ans. Quand même, et elle est entièrement payée. Ça inclut les manuels scolaires, les repas, le logement, et l'étudiant a également droit à une allocation durant ses études, qu'on m'expliquait. Soulignons qu'il s'agit d'un programme universitaire durant lequel les étudiants apprennent à utiliser et entretenir tout l'équipement et toutes les structures des navires de la garde côtière canadienne. Au terme de leur formation, ils seront aussi en mesure d'exécuter des travaux majeurs de réfection et de réparation des moteurs et autres systèmes de propulsion. Alors, dans le prochain extrait, M. Gerbassi illustre bien les aptitudes que possède un ingénieur mécanique de la garde côtière une fois sa formation complétée.
L'ingénieur à bord des navires sont responsables pour tous les systèmes mécaniques, électriques, la plomberie, tout qu'est-ce qui se passe. Alors, si jamais il y a un système qui fait défaut, alors on se fie à l'équipe d'ingénierie à bord du navire de faire les réparations. Et comme qu'on sait, alors, s'ils sont en mer pour 28 jours ou un mois, deux mois, trois mois, comme mettons si ça serait dans l'Arctique, alors sont là pour une durée de 3 mois avant qu'ils reviennent. C'est pas une question de débarquer pour aller à Home Depot ou quelque que ce soit pour aller chercher des pièces ou même de téléphoner quelqu'un pour venir faire les réparations. Alors, ici, la formation qu'ils reçoivent au collège, c'est de tout couvrir tous ces aspects pour avoir au moins une connaissance minimum de faire toutes sortes de réparations. Alors, le tuyautage, l'électricité et évidemment dans la salle de machine pour les engins.
Et évidemment, les endroits et les contextes dans lesquels les ingénieurs mécaniques travaillent sont nombreux. Uniquement sous la supervision de Yannick Poirier, surintendant du Centre des opérations régionales basé à Montréal, la garde côtière compte 42 navires, 7 hélicoptères et 2 aéroglisseurs. Or, les 42 navires ainsi que les 2 aéroglisseurs requièrent la présence de mécaniciens qui œuvrent selon différents corps de travail. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça aujourd'hui, évidemment avec un angle local qui est la Basse-Côte-Nord, c'est que M. Poirier présente les possibilités d'emploi dans le secteur de la Basse-Côte-Nord pour les futurs étudiants en génie maritime dans le prochain extrait.
Comme sur la Basse-Côte, on a une unité de recherche et sauvetage, un navire 47 pieds qui est à Kaygaska. On a un autre à Havre-Saint-Pierre qui est un peu plus à l'ouest. Il y en a un autre aux îles de la Madeleine. Il y en a un autre à Rivière-au-Nord en Gaspésie. C'est toutes ces unités-là ont 2 mécaniciens. Ils ont des mécaniciens qui travaillent en alternance. Fait que c'est ce type de travail-là, ou endroit-là qu'ils peuvent travailler. Il y a aussi tous les baliseurs qui vont faire toutes les bouées au large sur la Basse-Côte, sur les bouées qui sont au large de vos communautés. Il y a des baliseurs qui vont. Ça fait qu'il y a des mécaniciens qui sont sur ces navires-là, comme là, Martel Black qui fait du balisage sur la Basse-Côte. Même chose pour les navires de science. On a des navires de science qui font des. Présentement, je pense qu'on a un navire qui s'appelle le LIME qui fait de la science au large de Natashquan, je crois. Ça fait que ça, une autre chose, on a besoin de mécanos à bord de ces navires-là. Il y a des navires aussi de patrouille, de conservation et protection qui fait la patrouille des pêches. Puis on a des navires de la GRC également, de Marine Security Enforcement Team, en anglais. Eux autres aussi ont besoin de mécanos aussi. Ça fait que c'est toute cette flotte-là, on a besoin de mécanos un peu partout.
Et évidemment, les gradués du programme peuvent aussi décider d'aller travailler ailleurs au Canada, là, pas obligé d'être en Basse-Côte-Nord. Et M. Gerbassi précise même qu'on les encourage à explorer de nouveaux horizons durant leurs études.
Lorsqu'ils font leur formation ici au collège, ils vont avoir des opportunités où ils vont faire leur stage en mer. Alors, on leur encourage d'aller à autre région pour voir qu'est-ce que ça a à offrir. Et puis, lorsqu'ils graduent, alors là, maintenant, on va demander à chaque région, alors combien d'officiers qu'ils veulent. Et puis là, maintenant, on va placer nos gradués selon leur premier, en général, selon leur premier choix.
Et si on parle du programme de génie maritime aujourd'hui, le directeur des études au Collège de la garde côtière canadienne précise qu'il ne s'agit pas du seul domaine d'études offert par la garde côtière canadienne. On l'écoute à nouveau.
on offre des formations pour tout le personnel de la flotte et de la garde côtière en général. Alors, tous les programmes que Yannick a mentionnés, alors en temps de SCTM, de Service de communication et de trafic maritime, ça c'est un programme de 6 mois au collège, de technologie, d'électricien, de recherche et sauvetage, de réponse environnementale. Alors, c'est tout des programmes que le collège offre.
Rappelons en terminant que la garde côtière canadienne souligne cette année ses 60 ans d'histoire. Dans la Basse-Côte-Nord, ses activités varient au gré des saisons. Et dans un dernier extrait, on peut entendre M. Poirier détailler le tout.
En hiver, ça va être plus au niveau des brise-glaces qu'on va avoir besoin de ressources, comme Blanc-Sablon et Sainte-Barbe à Terre-Neuve. On a un traversier qui est là, puis on a souvent besoin d'un brise-glace. Le Bella des Gagnés, qui est un navire qui fait la côte. Le Bella des Gagnés a souvent besoin d'aide pour entrer au port, du déglaçage de port, ça fait qu'on a besoin de brise-glace. Ces brise-glaces-là ont besoin aussi de mécanos à bord. Ça fait que c'est ce type de service-là qu'on a en hiver. Au printemps, été, c'est plus les 47 pieds des navires de recherche et sauvetage pour assurer la sécurité des pêcheurs, les pêcheurs qui vont dans cet état d'Arrington et partout. Là. Ils sont là pour assurer la sécurité en cas de panne, en cas de sorte de bris qui peut arriver à bord d'un navire, d'évacuation.
C'était donc Yannick Poirier, surintendant du Centre des opérations régionales basé à Montréal, qui a été précédé plutôt par David Gerbassi, directeur des études au Collège de la garde côtière canadienne.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Et on reste à Tête à la baleine, une communauté constituée d'une centaine d'habitants seulement, mais qui, imaginez, est en branle-bas de combat pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Et deux d'entre eux, Yvonne Fuentes et Michael Lambert, veulent ouvrir les portes du village francophone de la Basse-Côte-Nord à ces Ukrainiens. Ils ont même lancé une campagne de financement sur GoFundMe. Deux familles d'Ukraine souhaitent venir s'établir à Tête à la baleine, soit 4 adultes. Et 7 enfants au total, lesquels se trouvent présentement dans une situation précaire en Pologne. Puisqu'aucune aide gouvernementale n'est assurée pour permettre de défrayer les coûts associés à l'accueil de ces familles, affirme l'organisatrice, l'argent amassé servira à couvrir leurs frais de déplacement entre l'aéroport de Montréal et le village. Il faut savoir que 1500 km de route et d'eau séparent les deux endroits et que pour accéder au village depuis Montréal, il faut donc prendre sa voiture, mais ensuite le bateau, le Bella des Gagnés ou encore opter pour un autre vol avec la compagnie Air Liaison. La campagne de financement vise à amasser 6 500 $ et si l'objectif est dépassé, ce que les organisateurs souhaitent bien sûr, les sommes restantes permettront de faciliter l'intégration des familles, notamment en défrayant les coûts de traduction de documents officiels, l'achat de vêtements adéquats par exemple et de jouets pour les enfants, ajoute Mme Fuentes. Ces familles, dit-elle, vivront dans un endroit paisible et d'une beauté à couper le souffle. Elles seront accueillies par une communauté tissée serrée et auront accès à des opportunités uniques facilitant leur intégration et leur épanouissement. La baleinoise admet par ailleurs sur GoFundMe que la démarche permettrait d'écarter le risque de fermeture de l'école du village. L'école Gabriel Dion accueillait 3 élèves durant la dernière année scolaire au moment d'écrire ces lignes. Bien des fois, on a besoin d'un prétexte pour faire des choses qu'on espère depuis longtemps. Et parfois, c'est par le sport que ça passe. Il n'en fallait pas moins le 15 juillet dernier pour que la francophonie d'Ottawa se rassemble autour d'un match de baseball opposant les Titans d'Ottawa et les Capitales de Québec. Drapeau en main et hymne en français et tout, c'était la première fois que les Titans organisaient un événement comme celui-là pour rendre hommage en fait à la langue française et à sa survivance. Notre journaliste Marie Hillès s'est glissée parmi les fans des Titans et des Capitales de Québec. Les Capitales de Québec qui, en passant, ont remporté le match contre les Titans 6-4.
Un crieur public vêtu d'une tenue moitié franco-ontarien, moitié québécois, annonce le match de ce soir. Les Titans d'Ottawa accueillent les Capitales de Québec pour cette soirée entièrement francophone en honneur de la langue de Molière. Une soirée d'été agréable. Il fait beau, il y a une belle ambiance, du pop-corn, des hot-dogs, des boissons fraîches. Dans une section réservée aux francophones pour cette soirée-là, tout le monde chante, la plupart d'entre nous tiennent un drapeau franco-ontarien. Des jeunes supporters attendent avec impatience que le match commence.
Toi, tu joues du baseball et depuis combien de temps?
Depuis l'année passée, mais j'aime beaucoup ça.
Et pourquoi tu aimes ce jeu, justement?
J'aime ça lancer les balles, puis je trouve ça que j'aime ça quand c'est serré.
Comment est l'ambiance dans ton équipe?
C'est cool, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est quand quelqu'un est au bâton puis on lui chante des chansons.
Un autre jeune joueur de baseball est venu avec son maillot, son gant et sa casquette. Il a hâte de voir l'équipe d'Ottawa.
Pourquoi tu aimes ce jeu?
Parce que c'est le fun, ben, frapper à balle.
Et comment tu te sens de pouvoir voir l'équipe d'Ottawa ce soir ici?
Je suis quand même excitée de les voir sur le terrain. Parce que j'aime beaucoup ça, puis quand la balle va vite, ça me donne un petit peu de frisson.
Sébastien Boucher était joueur professionnel de baseball pendant 15 ans. Une fois sa retraite, il a continué dans le baseball, mais moins sur le terrain et plus du côté des affaires. Aujourd'hui, il est l'assistant directeur général des Titans d'Ottawa. Pour les Titans, c'est une première de faire un match en français pour rendre hommage à la langue française.
Je pense à Ottawa, on a souvent des conflits Ottawa, anglais-français. Puis c'est toujours anglais premier. Puis nous, on a plusieurs de nos partisans qui viennent du côté de Gatineau, de l'Outaouais. Alors, on voulait vraiment leur montrer que, regarde, on vous entend, on sait que vous êtes là. Et on veut vous montrer qu'on est capable de vous supporter en même temps qu'ils nous supportent. De montrer à nos partisans francophones qu'on les apprécie, puis vraiment donner le sens d'appartenance francophone dans notre région aussi. C'est franco-ontarien aussi, même chose. Je pense qu'on langue française, on croit tout le temps qu'on n'est pas toujours apprécié. Alors, c'était vraiment montrer notre appréciation de la langue. On a eu beaucoup de succès par rapport à cet événement. Alors, je pense qu'on planifie peut-être de le refaire.
Léo est venu avec le centre Pauline Charron. Il aime le baseball. Le centre vient deux fois par an au match des Titans. Mais être ici ce soir, c'était particulièrement important pour lui.
On nous a invités, on a dit bien, il faut que la communauté se rallie puis qu'elle soit là pour montrer qu'on est vivant puis dans tout, dans les sports aussi.
Pourquoi c'est important pour vous, la francophonie?
Écoute, la francophonie, à Ottawa, on est plus chanceux que bien d'autres endroits à travers la province. Ça. Quand tu as une chance d'avoir visité d'autres milieux, tu vois comment fort les gens se battent pour maintenir leur langue. Tu dis, nous autres, on est chanceux à Ottawa, puis il ne faut pas prendre ça pour un avantage gagné. Il faut toujours être vigilant.
Les Titans sont en congé cette semaine en raison du match étoile de la Ligue Frontier. Vendredi prochain, ils joueront face aux Crushers du lac Erie à Ottawa dès 18h30.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Les Summer Days de Lac-Labiche en Alberta seront célébrés le 29 juillet. Avec le lever des restrictions sanitaires, le comité organisateur s'attend à accueillir beaucoup de monde cette année. Les Summer Days, auparavant connus sous le nom de Lac-Labiche Powwow et Fish Derby, ont changé de nom pour faire honneur à la culture autochtone. Le festival, qui cherche à devenir un événement phare pour la région de Lac-Labiche, à l'instar du Stampede de Calgary et des Klondike Days d'Edmonton. La parade d'ouverture va se déployer le 29 juillet et les entreprises locales de la région ont toutes été invitées à soumettre leur candidature et à prendre part aux célébrations. De Plamondon en Alberta, les précisions de Vincent Lavoie, qui est en compagnie de Laven Fleming, présidente des Summer Days de Lac-Labiche.
Les préparations vont de bon train pour les Lac-Labiche Summer Days. Après 2 ans d'événements réduits en raison des mesures sanitaires, la région de Lac-Labiche s'apprête à renouer avec une tradition qui perdure depuis 60 ans. L'événement est de retour pour une 2e année sous son nouveau nom. Bien que l'esprit du Lac-Labiche Powwow and Fish Derby n'a pas changé, le comité d'organisation jugeait nécessaire le changement de nom pour éviter la confusion générée par le terme Powwow, en particulier depuis les remous causés par la découverte macabre de plusieurs tombes anonymes sur les sites d'anciens pensionnats autochtones. Voici à ce sujet la présidente des Lac-Labiche Summer Days, Lavon Fleming.
The membership last year felt that with some of the social injustices that have occurred to our Indigenous peoples, we felt it was time that that name had changed. And as a member of the First Nation community, of course, I absolutely support that. You know, powwow does mean meeting. It, to some, it could be interpreted as very traditional Indigenous cultural event.
Les Summer Days de Lac-Labiche sont une adaptation locale du Stampede de Calgary et des Klondike Days d'Edmonton, qui ont tous les deux lieu durant la période estivale. Pour Mme Fleming, l'événement se veut une vitrine de la région de Lac-Labiche, mais aussi une occasion pour les familles de vivre du bon temps.
This is a come out to Lac-Labiche, have a good time, experience our local businesses, experience our beautiful lakes, you know, our campsites, and our wonderful people. Come check out Lac-Labiche and catch the spirit of Lac-Labiche Summer Days.
Comme à chaque année, l'événement se tient durant la longue fin de semaine du jour de l'héritage, jour férié en Alberta. Les festivités commencent avec un défilé qui longe plusieurs attraits du hameau de Lac-Labiche et dispose aussi de concerts de musiciens locaux, sans oublier un spectacle de feux d'artifice.
We really appreciate our community groups for hosting some of the events. We appreciate our volunteers. We appreciate our mayor and council. We appreciate our community members. They really put on a fantastic parade last year. We're expecting that again this year. So we're really thankful that we have the community support and that people are catching the spirit.
Malgré le contexte économique difficile, les partenaires financiers de l'événement ont répondu à l'appel. Le comté de Lac-Labiche, entre autres, commandite le spectacle de feux d'artifice. À défaut de disposer d'un site Internet, les annonces à venir sur les événements seront faites sur la page Facebook des Summer Days. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Plamondon.
De devenir chauffeur d'autobus et de travailler votre circuit dans la langue de Molière, eh bien, qui sait, une petite migration vers l'est du Canada pourrait vous permettre d'accéder à vos rêves les plus fous. Alors que le district scolaire francophone sud du Nouveau-Brunswick, ou DSF-S, peine à recruter la 20aine de conducteurs francophones dont le district a tant besoin. Mais n'entre pas qui veut, ces conducteurs qui doivent suivre une formation obligatoire. Et dans certaines régions du Nouveau-Brunswick, il est souvent plus difficile d'en trouver qui parlent et écrivent en français. Mais attention, bien que le district soit continuellement à la recherche de nouveaux chauffeurs, il semble que certains conducteurs, déjà à leur emploi, soient toujours en attente d'un poste permanent, en dépit du fait qu'ils aient accumulé plusieurs années d'expérience en tant que suppléants. Ce qui explique peut-être bien des choses. Notre journaliste Sébastien Caron discute avec Catherine Nadeau, coordonnatrice du recrutement et de la fidélisation du personnel au DSF-S.
Le district scolaire francophone sud rencontre des difficultés pour recruter du personnel francophone, notamment des conducteurs d'autobus scolaires. À ce jour, c'est une vingtaine de conducteurs qui sont recherchés par le district et il y a clairement des difficultés supplémentaires dans certaines régions de la province. Catherine Nadeau, coordinatrice du recrutement et de la fidélisation du personnel au district scolaire francophone sud.
C'est difficile pour nous présentement de donner des chiffres puisqu'on est en période de planification pour savoir combien de gens qui travaillaient avec nous en supplance l'année dernière reviendront pour l'année suivante. Donc, on est vraiment en période de planification, mais on sait qu'au niveau des conducteurs d'autobus, pour les permanents, on recherche à peu près une vingtaine de conducteurs, conductrices d'autobus. Oui, il y a des régions où c'est plus durement touché. Donc, on pense particulièrement à Saint-Jean, à Fredericton, puis à la grande région de Saint-Louis. Donc, on pense à Miramichi, Rogersville, Baie-Sainte-Anne, Saint-Louis-de-Kent, Richibouctou. C'est un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'on ait des défis. Il faut penser au fait que qu'on est en situation anglo-dominante, donc que le bassin de personnes qui sont confortables à parler le français ou à s'exprimer en français oral et écrit est moindre. La compétition pour ces personnes-là est plus grande parce qu'il y a plusieurs employeurs qui recherchent des personnes qui parlent le français. Donc, que ce soit au niveau scolaire, donc dans les districts anglophones, ou encore parmi d'autres employeurs privés ou publics, la compétition est plus forte.
Autre difficulté supplémentaire concernant le recrutement des conducteurs d'autobus, ceux-ci doivent suivre une formation qui se fait en deux temps. La prochaine formation aura lieu à partir du 15 août. Tant qu'ils n'ont pas été formés, ceux-ci ne touchent pas de salaire.
Donc la formation se fait en deux morceaux, si on veut, ou en deux périodes. La première, c'est une formation qui est offerte par la province. Et puis cette formation-là dure 5 jours. C'est une formation qui est offerte gratuitement. Et puis, il y a une seconde formation qui dure quelques jours une fois que l'individu aura passé ses tests et aura son permis pour la conduite. Le processus est un peu plus long. Il faut s'y attendre. Donc, ça fait partie, en fait, des défis. Donc, la prochaine formation est planifiée pour le 15 août. Okay. Alors, certainement qu'une fois que cette formation-là est complète, les gens vont le faire, mais il faut passer des tests, un test écrit également. Puis là, il y a la formation en milieu de travail. Donc, ça peut prendre un certain moment avant d'avoir la formation complétée, mais certainement que les gens qui auront participé au mois d'août, on vise qu'ils soient prêts, c'est ça, au mois de septembre, là, à pouvoir travailler avec nous. C'est vrai que ça peut agir comme obstacle, mais certainement qu'on déploie tous les efforts possibles pour être en mesure d'augmenter les occasions de formation.
Dans le cadre de nos discussions avec certains conducteurs d'autobus, il semble que certains soient en attente d'un poste permanent depuis plusieurs années, et ce, bien qu'ils aient accumulé de l'expérience en tant que suppléants. Si vous souhaitez vous aussi devenir conducteur d'autobus pour le district scolaire francophone sud, tous les renseignements disponibles sont sur dsfsrecrute.ca. Ici Sébastien Caron pour IJL à Fredericton.
Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On remercie nos journalistes Pénélope Clermont, Vincent Lavoie, Marie Hillès et Sébastien Caron, notre nouvelle recrue dans l'Est du pays et qui ne remplace pas Sébastien Beltran, comme je l'ai dit la semaine dernière. Coordonnateur national Stéphane Bénard. Retrouvez-les tous et d'autres encore sur canada-info.ca, canada-info.ca, eux qui produisent des dizaines de reportages sur une base hebdomadaire. Cette émission est une présentation du Fonds canadien des radio communautaire à Ottawa, avec la collaboration de votre radio locale. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.